Chers auditeurs de Radio Shalom, bonjour. Bienvenue pour cette chronique historique hebdomadaire de C'était pas prévu au programme, qui est diffusée tous les lundis de 16h30 à 17h, avec moi-même, Elias Acoca-Vigneron, professeur d'histoire et fondateur de la plateforme d'art et d'histoire, avec un S à art et un S à histoire. Il y a un site internet, mais aussi une page Facebook, une page Instagram et même une chaîne YouTube. Et je remercie aussi notre partenaire, l'application Yes or No, une application de Paris. Commençons cette chronique historique en musique avec la troisième symphonie héroïque de Beethoven, composée en 1803. Cette symphonie héroïque était initialement appelée la symphonie Bonaparte. Beethoven, qui admirait le général Bonaparte, porteur des idéaux de la Révolution française, l'a débaptisée en 1804. Et le 15 novembre 1796, il y a donc tout juste 125 ans, jour pour jour, le jeune général Bonaparte n'a que 27 ans et il se trouve à 10 km à l'est de Vérone, dans le nord de l'Italie, en face du village d'Arcole, et il s'apprête à rentrer dans la légende alors que la pluie s'abat sur le village. En face du village d'Arcole, Napoléon contemple l'Alpone, un affluent de l'Adige, qu'il s'apprête à traverser pour affronter l'expérimenté général autrichien Joseph Alvinsi. Il a 61 ans, il a combattu durant la guerre de 7 ans, la guerre de succession de Bavière, et contre la France depuis 1792. Et ce général Alvinsi est donc suppléé par un autre général expérimenté, le général Paul von Davidovich. Les Autrichiens tiennent le village d'Arcole, et Napoléon veut absolument s'emparer de ce village. Alors pourquoi ? Pour le comprendre, il faut remonter à 1792. En effet, en 1792, la France en révolution déclare la guerre à l'Autriche. L'Autriche qui menace les frontières et qui abrite les émigrés, c'est-à-dire les nobles qui refusent la révolution française et qui rassemblent des troupes aux frontières. À partir de janvier 1793 et l'exécution de Louis XVI, une véritable coalition européenne se met en place contre la France, qui rassemble l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse, l'Espagne, le Piémont-Sardaigne, la Hollande. La France est menacée d'invasion. Elle repousse d'abord les envahisseurs à Valmy, en septembre 1792, puis, grâce à la victoire de Fleurus, menée par les généraux Jourdan et Kléber, elle repasse à l'offensive et occupe la Belgique. Pendant ce temps-là, Napoléon, qui est de petite noblesse corse et qui a étudié au collège de Brienne l'artillerie, monte dans les grades. Il est nommé commandant d'artillerie et reprend Toulon aux Anglais en décembre 1793. Il y fait la connaissance d'Augustin Robespierre, le frère du fameux orateur, et il est donc réputé proche des Jacobins. Après la chute de Robespierre et de ses partisans, il continue à servir sous le directoire, qui lui donne comme mission en 1795 de réprimer une insurrection royaliste devant l'église Saint-Roch. En mars 1793, il est nommé général. Et il doit alors commander une armée de diversion, une petite armée, l'armée d'Italie, qui doit occuper les Autrichiens en Italie, tandis que le gros des troupes françaises combattra sur le Rhin. Mais voilà. Le génie militaire de Napoléon fait que cette armée de diversion devient en fait la principale force d'attaque de la France. Il bat d'abord les troupes piémontaises et signe avec le royaume de Piémont-Sardaigne l'armistice de Cherasco. Puis il entreprend de chasser les Autrichiens du nord de l'Italie et en mai 1793, après la bataille de Lodi, il rentre dans Milan. Il veut donc continuer sa route et poursuit donc à l'est, vers la Vénétie, jusqu'à ce petit village d'Arcole, où il s'apprête donc à rencontrer l'armée d'Alvinzi. Son but est de concentrer ses forces pour briser l'armée d'Alvinzi, tandis que le général Vaudois contiendra les troupes de Davidovich qui pourraient venir soutenir d'Alvinzi. Mais pour cela, il faut d'abord franchir l'Alpone, soit par un petit pont en bois, soit par les marais. Au matin du 15 novembre, il donne ses ordres. Et plusieurs généraux vont donner l'exemple et mener la charge sous la mitraille autrichienne en s'élançant sur le pont. D'abord le général Verdier, puis le général Lannes, puis les généraux, le général Augereau. Mais toutes ces charges sont des échecs. Napoléon, qui voit la situation de l'arrière, décide alors de mener lui-même la charge. Il se saisit d'un drapeau et s'élance à son tour sous la mitraille. Mais au milieu du pont, une balle touche son aide-de-camp, Murion, qui meurt sur le coup. Napoléon est projeté dans les marais par ses troupes. Et les Autrichiens repassent à l'offensive à leur tour et chargent sans remarquer Napoléon, englué dans les marais. C'est alors qu'un adjudant-chef, Bayard, le remarque. Il le sort des marais et organise la contre-attaque. Cet adjudant-chef sera fait général sur le champ de bataille. Puis Bonaparte rassemble ensuite ses hommes de l'autre côté de l'Adige et avec le soutien des troupes d'artillerie du général Serrurier, il pilonne sans relâche les Autrichiens. Mais il utilise aussi la ruse. Le 17 novembre, il demande à un lieutenant de passer l'Alpone en amont, puis de contourner les Autrichiens et d'arriver sur leurs arrières en faisant le plus de bruit possible avec des tambours et des fifres pour leur faire croire qu'ils sont pris à revers. Les Autrichiens doutent. Ils se désorganisent et battent en retraite en laissant 6000 morts sur le champ de bataille. Cette victoire illustre à merveille les stratégies et les qualités militaires de Napoléon. Se déplacer rapidement pour attaquer les adversaires séparément, utiliser l'artillerie de façon la plus efficace possible, mais aussi le courage physique de Napoléon et de ses généraux. Sa capacité psychologique aussi à tromper l'adversaire, comme il le fera plus tard à la bataille d'Austerlitz. Si vous voulez en savoir plus sur Napoléon et son génie militaire, je vous invite à suivre la conférence de mon ami Clément Éoge Duval, enseignant d'histoire et spécialiste de la garde consulaire, qui donnera donc une conférence sur d'art et d'histoire le 2 décembre à 20h30. Cette victoire du pont d'Arcole qui fait rentrer Napoléon dans la légende est suivie de celle de Rivoli, et elle permet à la France de chasser les Autrichiens du nord de l'Italie et de l'occuper. C'est donc désormais les principes de la Révolution française qui vont s'appliquer en Italie. Et le premier de ces principes, c'est l'égalité. L'égalité qui a permis aux Juifs d'être émancipés en 1791. C'est-à-dire que les Juifs deviennent des citoyens comme les autres, sans discrimination, soumis aux mêmes lois. Et donc les Juifs d'Italie vont alors pouvoir participer à la vie politique, être élus dans les conseils municipaux. Et surtout, ils vont pouvoir sortir des ghettos. Ces quartiers fermés la nuit et dont les Juifs n'avaient pas le droit de sortir. C'est un vieux rêve pour les Juifs de pouvoir sortir du ghetto, comme en témoigne cette légende du golem, un être d'argile forgé par le Maharal de Prague qui, en se réveillant, détruirait les portes du ghetto. Vous entendez là un extrait du film de Jean Duvivier, Le Golem, sorti en 1936. Alors, dans la première partie de cette chronique historique, nous avons évoqué la bataille d'Arcole et l'installation des troupes françaises en Italie en 1796, qui ont permis aux Juifs de sortir des ghettos. Car c'est bien en Italie que le mot ghetto a été forgé. C'est un mot qui vient du vénitien, du dialecte vénitien. En effet, la péninsule italienne est divisée en une multitude de cités-états avant les années 1860. Et dans chacune des cités, l'on parle parfois un dialecte. Ce mot ghetto, qui à l'origine se prononce ghetto, signifie fonderie. Pourquoi ? C'est parce que en 1510, eh bien, l'ensemble des Juifs de Venise sont obligés de s'installer dans une des îles au nord de Venise, une île sainte de murs avec trois portes qui sont fermées la nuit et dont les Juifs ne peuvent pas sortir. Comment en est-on arrivé là ? La présence juive est très ancienne dans la péninsule italienne. Dès le IIe siècle avant notre ère, elle est attestée. Elle est renforcée par la conquête de la Judée en l'an -55 par le général Pompée, puis après la pacification de la Judée suite à une révolte, celle qui commence à Massada en l'an 68 et qui se termine en l'an 63 à Massada, et qui a vu le temple de Jérusalem brûlé par les troupes de Titus, eh bien des Juifs sont ramenés en esclaves à Rome, ils servent au triomphe de Vespasien, puis ils servent aussi à édifier la grande œuvre qui embellit Rome sous le règne de Vespasien, à savoir le Colisée. Au Moyen-Âge, cette présence juive est aussi attestée. Elle était attestée à Rome, à Ravenne, mais aussi dans le sud de l'Italie, en Sicile, à Venise, avec différentes communautés juives qui suivent des rites différents. On a des communautés de rite ashkénaze, mais aussi des communautés juives romagnotes, c'est-à-dire qui parlent le grec et qui suivent un rite qui leur est propre. Et enfin, une petite communauté qui a un rite spécifique, un rite italien, et qui parle un dialecte judéo-italien, l'italki. Ces juifs vivent dans des quartiers distincts, mais dans lesquels des chrétiens vivent aussi, et ils sont en relative bonne intelligence. Les choses vont se gâter au XIIe siècle, bien que les juifs d'Italie ne soient pas touchés par les massacres qui touchent les autres communautés juives au moment des croisades, notamment les communautés juives de la vallée rhénane. Eh bien, le concile de Latran III, qui réunit l'ensemble des évêques du monde catholique à Latran, en 1179, leur interdit de posséder des serviteurs chrétiens. Et puis le concile de Latran IV, le quatrième concile qui s'est tenu à Latran, en 1215, leur impose le port d'un signe vestimentaire distinctif. Alors ce port vestimentaire distinctif, ça pourrait être un chapeau conique dans les pays de langue germanique, mais en Italie ou en France, c'est plutôt une pièce de tissu cousue sur le vêtement qu'on appelle la rouelle. Elle est de couleur jaune ou de couleur rouge. On leur interdit aussi de sortir chez eux durant la Semaine Sainte, c'est-à-dire durant la Pâque chrétienne. Malgré tout, la présence juive va se renforcer en Italie, notamment avec l'expulsion de Juifs des autres pays qui donc trouvent refuge en Italie. L'expulsion des Juifs ashkénazes de France en 1306, qui vont trouver refuge dans le Piémont. L'expulsion aussi des Juifs ashkénazes des pays germaniques au XVIe siècle, par exemple de Ratisbonne en 1519. Et puis l'expulsion des Juifs d'Espagne, qu'on appelle séfarades, donc séfarades ça veut dire espagnol en hébreu, qui sont expulsés en 1492. Et puis, on a aussi des Juifs portugais qui vont arriver notamment dans le port de Libourne en 1593. Ces Juifs continuent de pratiquer leurs rites d'origine. Et ils vont donc fréquenter des synagogues différentes, qu'en Italie on appelle des scuola. Ainsi, à Rome, une place porte le nom de Plaza des Cinque Scuole, car près de cette place se trouvait un immeuble où étaient juxtaposés cinq oratoires qui suivaient des rites différents. À Ferrare, il y a trois synagogues qui ont chacune leur rite, la Scuola Italiana, la Scuola Tedesca, la Scuola Spagnola. Hein, donc, une synagogue qui suit le rite italien, une autre le rite ashkénaze, une autre le rite séfarade. Ces juifs vont coexister avec les chrétiens et participer notamment à la transmission de savoir, le savoir médical, mais aussi participer eh bien, à la vie intellectuelle de l'Italie. Une Italie qui, au Moyen-Âge, est largement urbanisée, contrairement au reste de l'Europe. Ainsi, Emmanuel Ben Salomon est ami de Dante, le grand poète de la Divine Comédie au XVe siècle, qu'on appelle aussi le père de la langue italienne. On dit de l'italien que c'est la langue de Dante. Eh bien, cet Emmanuel Ben Salomon est poète lui-même. Il écrit en hébreu, en italien, en latin. C'est aussi en Italie que sont imprimés les premiers livres en hébreu par des juifs venus des pays germaniques en 1475. Le premier Tanakh imprimé est imprimé à Bologne en 1482. Abraham Farisol, né à Avignon et qui rejoint Mantoue puis Ferrare au XVIe siècle, écrit des livres polémiques contre l'islam et le christianisme, le Magen Abraham, le bouclier d'Abraham, qui sont traduits en italien à la demande même du duc qui dirige la ville de Ferrare, le duc d'Est. Ce même Abraham Farisol traduit Aristote en hébreu et écrit un immense traité de géographie en 40 volumes, le Olam Jeret Oreot. On pourrait aussi citer Judas Avramel, d'origine portugaise, qui publie les Dialogues de l'amour en 1502, un recueil de poèmes néo-platoniciens. Ou encore Judas Léon Somo, qui en 1555 écrit la première pièce de théâtre en hébreu. Mais à côté de cette vie intellectuelle riche, eh bien ces juifs doivent aussi faire face à des violences. Ainsi, en 1474, 360 juifs sont massacrés dans le quartier juif de Modica en Sicile. On accuse parfois les juifs de profaner les hosties, comme en témoignent les tableaux de Paolo Uccello, les six panneaux peints plutôt de Paolo Uccello, qui sont conservés à la galerie des marches d'Urbino et qui montrent eh bien, des juifs en train de profaner des hosties. On les accuse de commettre des meurtres rituels, c'est-à-dire de prendre des petits-enfants chrétiens pour les saigner et en faire le pain azim que les juifs mangent à Pâques. Ainsi, en 1475, à 30, un petit Simon de 4 ans disparaît. Les juifs sont alors accusés et 14 juifs sont condamnés à mort sur les 30 juifs de la ville, soit la moitié de la ville, sans aucun indice concret. Simon de 30 est même béatifié en 1588, il sera débaptifié en 1965. Il y a aussi des livres juifs qui sont brûlés lors de grands autodafés comme ceux qui se déroulent en 1553 à Rome, à Crémone ou à Venise. On est durant le Concile de Trente, au moment où l'Église catholique se raidit sur ses positions. Et puis, eh bien, la péninsule italienne est à son tour frappée par des expulsions de juifs. En 1510, le royaume de Naples expulse les juifs. Et donc, ces juifs du sud de l'Italie vont aller plus vers le nord. Mais en 1569, c'est au tour des États pontificaux dans le centre de l'Italie d'expulser les Juifs, sauf les Juifs de Rome et d'Ancône. En 1597, le duché de Milan, au nord, expulse à son tour les Juifs. Et donc, ces Juifs expulsés eh bien, vont trouver refuge dans les villes qui leur eh bien, réservent un meilleur accueil, à Rome, à Mantoue, à Venise, à Ferrare et surtout à Livourne, où ils ne seront jamais mis dans des ghettos. À Venise aussi, la question se pose d'expulser les Juifs. Mais un compromis est trouvé car il y a aussi, parmi les gens de la République de Venise, des gens qui sont opposés à l'expulsion des Juifs. Et donc en 1510, on décide de les mettre dans un quartier fermé, le ghetto de Venise. La chose est appliquée aussi à Rome en 1555. Et puis lorsque Ferrare tombe sous la férule du pape en 1630, eh bien les Juifs de Ferrare sont eux-mêmes mis dans des ghettos, dans un ghetto hein, qui rassemble trois rues. Seuls donc les Juifs de Livourne et de Pise vont échapper à cette mise dans les ghettos. Alors vous comprenez qu'en 1796, lorsque la France prend pied en Italie, eh bien c'est une libération pour ces juifs qui échappent aux discriminations. En 1806, les juifs d'Italie sont invités à participer à l'Assemblée des notables que réunit Napoléon, puis au Grand Sanhédrin, en 1807, qui débouche sur la création du consistoire, institution qui existe encore de nos jours. Et c'est un juif originaire d'Italie qui devient le deuxième grand rabbin de France, Abraham de Colonia, qui vient de Mantoue et non de Cologne, et qui devient grand rabbin de France de 1812 à 1827. Mais après la défaite de Waterloo en 1815, eh bien ces juifs d'Italie sont remis dans les ghettos. Et il faut attendre, eh bien 1848, pour que Charles Albert, roi de Piémont-Sardaigne, fasse sortir les juifs du ghetto. Une nouvelle fois. Lorsque l'Italie fait son unité autour du Piémont-Sardaigne, entre les années 1860 et 1870, eh bien l'ensemble des juifs d'Italie pourra, cette fois-ci définitivement, du moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sortir des ghettos. Alors, pour terminer cette chronique, on va terminer en musique en remettant la symphonie héroïque de Beethoven. Et je vous dis donc à lundi prochain, de 16h30 à 17h, ou sur ma chaîne YouTube d'art et d'histoire, où vous retrouverez l'ensemble de ces chroniques mises en images.